Chapitre 4. Palabre. 1. Lorsque Roland se réveilla le lendemain, Susanna dormait toujours, mais Eddie et Jake étaient debout. Eddie avait refait un petit feu sur le squelette gris de l'ancien. Le garçon et lui étaient assis tout près pour recueillir la chaleur, en train de manger ce qu'Eddie appelait les burritos à la pistolero. Ils avaient l'air à la fois excités et inquiets. Roland, fit Eddie, je crois qu'il faut qu'on parle. Il nous est arrivé quelque chose la nuit dernière.
Je sais, répondit Roland, vous êtes allé Vahadash.
Vahadash? Demanda Jake. Qu'est-ce que c'est que ça?
Roland commença à leur raconter, puis il secoua la tête. Si on doit palabrer, Eddie, tu ferais bien de réveiller Susanna, comme ça on n'aura pas à répéter tout le début. Il jeta un œil vers le sud. Et, avec un peu de chance, nos nouveaux amis ne nous interrompront pas avant qu'on ait fini notre discussion. Ça ne les concerne pas. Mais déjà, il se demandait si c'était bien le cas. Avec un intérêt plus vif que d'ordinaire, il regarda Eddie secouer Susanna. Et il était sûr que ce serait bien Susanna qui ouvrirait les yeux, mais il ne l'aurait pas juré. Mais c'était elle. Elle s'assit, s'étira, se passa les doigts dans ses boucles serrées.
« Qu'est-ce qui te prend, Choupinet? J'étais parti pour une heure de plus, au moins. »«
Il faut qu'on parle, Sou, fit Eddie.
« Tout ce que tu voudras, mais pas maintenant, mon Dieu, je suis toute courbattue. »«
C'est le fait de dormir sur du dur, » répondit Eddie.
« Sans compter la chasse toute nue dans les marécages, » pensa Roland. Verse-moi de l'eau, trésor. » Elle tendit les paumes de ses mains, et Eddie lui versa de l'eau d'une des autres. Elle se la jeta sur le visage et dans les yeux et poussa un petit cri frissonnant.
« Glacé ! Cassé ! » fit Otté.
« Pas encore, » fit-elle au bafouilleux. « Mais encore quelques mois à ce régime-là, je le serai vraiment.
Roland, tes amis de l'entre-deux-monde, le café, ils connaissent ?»
Roland acquiesça.
« Il vient des plantations de l'arc extérieur. » Au sud.
Si on tombe dessus par hasard, on se serre, pas vrai?
C'est une promesse que je veux entendre.
Je te le promets. Tout en parlant, Susanna observait et dit.
Qu'est-ce qui va pas? Vous n'avez pas l'air très frais, les garçons.
Encore les rêves, fit Eddie.
Moi aussi, renchérit Jake.
Pas des rêves. Les corrigea le pistolero.
Et toi, Susanna, comment as-tu dormi?
Elle le regarda d'un air franc. Roland ne perçut pas l'ombre d'un mensonge dans sa réponse.
Comme une masse, comme d'habitude. L'avantage avec le fait de voyager tout le temps, c'est qu'on peut balancer ce foutu nabutal.
C'est quoi ce truc de vache, Roland? Demanda Eddie.
Vahadash.
Il leur expliqua de son mieux. Ce qu'il se rappelait le mieux dans l'enseignement de Vanay, c'était que les manis s'imposaient de longues périodes de jeûne pour se placer dans l'état d'esprit adéquat et qu'alors ils voyageaient en quête du lieu propice à générer le Vahadash. Ils déterminaient l'emplacement de ce lieu à l'aide d'aimants et de gros brandules de plomb.
J'ai l'impression que ces mecs-là auraient été comme des poissons dans l'eau à Needle Park, fit Eddie.
« N'importe où dans Greenwich Village !» ajouta Susanna.
Hein, « qu'on dirait de la musique hawaïenne ?» demanda Jake d'une voix grave et profonde, et ils se mirent tous à rire. Même Roland rit un peu.
« Vahadash, c'est une autre façon de voyager, » conclut Eddie quand le rire se tut. « Comme les portes et les boules de cristal, c'est bien ça ?»
Roland allait dire oui, puis il hésita.
« Je pense que ce sont toutes des variations autour du même thème, et, d'après Vanay, les boules de cristal, les morceaux de l'arc-en-ciel du magicien, favorisent le Vahadash. Elles le favorisaient même trop, parfois. »
Jake reprit.
« On clignotait vraiment comme des ampoules, ce que tu appelles des lampes à étincelles ?»«
Oui,
Vous apparaissiez et disparaissiez, et quand vous étiez parti, il restait une faible lueur à votre place, comme si quelque chose la gardait pour vous.
Si c'est le cas, je remercie le ciel, fit Eddie. Quand ça s'est terminé, quand la petite musique est revenue et qu'on s'est libéré, je vais te dire la vérité, je croyais vraiment qu'on n'en reviendrait pas.
Moi aussi, dit Jake d'une voix calme. Le ciel s'était couvert de nouveau, et dans la lumière blafarde du matin, le garçon était très pâle.
Je t'avais perdu.
Je n'ai jamais été aussi heureux de revoir un endroit de toute ma vie que ce petit bout de route, dit Eddie, et de voir que tu étais à côté de moi, Jake. Même Rover m'a paru sympathique. Il jeta un regard vers Otte, puis à Susanna.
Il n'était rien arrivé de ce genre cette nuit, chérie?
On l'aurait vu, fit Jake.
Pas si elle était Vahadash, ailleurs, suggéra Eddie.
Susanna secoua la tête, l'air troublé.
J'ai dormi, tout simplement, je vous l'ai dit. Et toi, Roland?
Rien à signaler, dit-il. Comme toujours, il préférait garder les choses pour lui, jusqu'à ce que son instinct lui dicte de partager l'information. De plus, ce qu'il avait dit n'était pas totalement un mensonge. Il scruta très attentivement le visage d'Eddie et de Jake.
On a des ennuis, pas vrai?
Eddie et Jake se regardèrent, puis se tournèrent vers Roland. Eddie soupira.
Ouais, probablement.
Grave? T'as une idée?
Non, pas vraiment.
Et toi, Jake?
Jake fit non de la tête.
Mais j'ai des idées, poursuivit Eddie. Et si j'ai raison, on a un problème. Du genre costaud.
Avec difficulté, Jake lui toucha la main, et le pistolero s'inquiéta de voir combien Eddie serrait fort les doigts du garçon.
Roland se pencha et prit la main de Susanna dans la sienne. Il eut un bref retour d'image, de cette main en train d'éviscérer une grenouille. Il écarta le souvenir. La femme qui avait fait ça n'était pas parmi eux en ce moment.
Racontez-nous, dit-il à Eddie et à Jake. Racontez-nous tout. On veut tout entendre.
Au mot près, confirma Susanna. Au nom de vos pères.
2. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé dans le New York de 1977. Fascinés, Roland et Susanna écoutèrent comment ils avaient suivi Jake jusqu'à la librairie, comment ils étaient tombés sur Balassar et ses hommes juste devant.
« Ouh !» fit Susanna. « Encore les méchants. On dirait presque un roman de Dickens. »«
C'est qui, ce Dickens? Et c'est quoi, un roman ?» demanda Roland.
« Un roman, c'est une histoire longue qui forme un livre. »«
Dickens a dû en écrire une douzaine. C'est sans doute le meilleur de tous les temps. Dans ses histoires, les habitants de cette grande ville appelée Londres n'arrêtent pas de revoir des gens de leur passé. » J'avais un prof au lycée qui détestait ce genre de scène. Il disait que les romans de Dickens étaient remplis de coïncidences faciles.
Un prof qui ne connaissait pas le cas ou qui n'y croyait pas, dit Roland.
Eddie acquiesça.
Ouais, c'est comme le cas, pas de doute.
Je m'intéresse plutôt à cette femme qui a écrit Charlie le Chouchou qu'à ce Dickens, dit Roland.
Jake, je me demande si tu...
J'ai toujours eu un wagon d'avance, répondit Jake en faisant sauter les boucles de son sac.
Avec une pointe de déférence, il en sortit un vieux livre usé, le récit des aventures de Charlie la locomotive et de son ami Bob le mécanicien.
Ils se penchèrent tous vers la couverture. Le nom inscrit sous l'illustration était toujours Barry Levans.
Bon sang, fit Eddie. C'est vraiment bizarre.
Je veux dire, je ne veux pas m'écarter de la voie. Il marqua une pause, prenant soudain conscience de son jeu de mots ferroviaire, puis il reprit. De toute façon, Roland se moquait des jeux de mots et des blagues.
Mais c'est bizarre. Celui que Jake a acheté.
Le Jake de 77 avait été écrit par une certaine
Claudia, quelque chose, Bachmann. Inès, compléta Jake. Et puis, il y avait un Y qui se baladait, un Y minuscule. Quelqu'un sait ce que ça signifie ?
Personne ne put répondre, mais Roland leur apprit qu'il y avait des noms de ce genre à Mégis.
Il me semble que c'était pour ajouter des titres honorifiques, et je ne pense pas que ce soit vraiment secondaire. Jake, tu disais que la pancarte dans la vitrine avait changé ? En quoi ?
Je ne m'en souviens pas, mais tu sais quoi ? Je crois que si tu m'hypnotisais de nouveau, tu sais, avec cette balle, je pourrais...
Et c'est peut-être ce que je finirais par faire, dit Roland. Mais ce matin, on manque de temps.
On en revient toujours à ça, pensa Eddie. Hier, le temps n'existait pas, et maintenant, on en manque. C'est toujours une question de temps, quoi qu'il arrive.
Non, le passé de Roland, notre passé à nous, et ce présent-ci, ce présent dangereux.
Pourquoi ? Demanda Susanna.
Nos amis, dit Roland en indiquant le sud de la tête.
J'ai le sentiment qu'ils vont bientôt se faire connaître.
Est-ce que ce sont vraiment nos amis ? Demanda Jake.
Ça, c'est secondaire, répondit Roland en se demandant une nouvelle fois si c'était bien vrai.
Pour l'instant, concentrons l'esprit de notre kef sur cette librairie spirituelle, quel que soit son nom. Vous avez vu les écumeurs de la tour penchée verboiser le propriétaire. C'est bien ça.
Ce Tower ou Torren.
Le malmené, tu veux dire, demanda Eddie.
Lui tord le bras,
oui.
Ça, tu peux le dire, fit Jake.
Le dire,
glissa Oté.
Peux le dire.
Je te parie ce que tu veux que Tower et Torren, c'est le même nom, dit Susanna. Torren, c'est tour en allemand.
Tower en anglais.
Elle vit que Roland s'apprêtait à ajouter quelque chose et elle leva la main.
Les gens font parfois ce genre de choses dans notre petit bout d'univers, Roland. Ils échangent un nom étranger pour un autre qui sonne plus... américain.
Ouais, fit Eddie.
C'est comme ça que Stempovich est devenu Stamper, que Yakov est devenu Jacob ou Barry Levens.
Claudia et Agnès Bachmann, dit Jake.
Il éclata de rire, mais le cœur n'y était pas vraiment.
Eddie ramassa une brindille à demi brûlée et se mit à griffonner distraitement dans la terre. Une par une, les grandes lettres s'y dessinèrent. C L A U.
Grobler l'a même dit que c'était allemand.
Un Bosch, ça reste un Bosch, pas vrai, patron ?
Il regarda Jake pour avoir sa confirmation. Jake acquiesça. Puis il lui prit la brindille des mains et compléta l'inscription. D I A.
Le fait qu'il soit allemand, c'est pas anodin, tu sais, dit Susanna.
À une époque, les Allemands possédaient la plus grande partie de Manhattan ?
Tu veux en rajouter dans le registre Dickens ? Demanda Jake.
Il inscrivit un Y dans la terre après Claudia, puis leva les yeux vers Susanna.
Qu'est-ce que tu dis de la maison hantée quand j'ai traversé pour atterrir dans ce monde ?
Le manoir, dit Eddie.
Le manoir de Dutch Hill, ajouta Jake.
Dutch Hill. Ouais, c'est vrai, bon Dieu.
Venons-en au fait, dit Roland. Je crois que le cœur de l'histoire, c'est ce papier que tu as vu.
Et tu avais le sentiment qu'il fallait que tu le voies, pas vrai ?
Eddie acquiesça. Est-ce que c'était un besoin comparable à celui de suivre le rayon ?
Roland, j'ai cru que c'était le rayon.
Le chemin vers la tour, autrement dit.
Ouais, fit Eddie.
Il pensait au mouvement des nuages le long du rayon aux ombres, s'étirant le long du rayon à chaque brindille de chaque arbre, tendu dans la direction du rayon. Toutes choses servent le rayon.
avait dit Roland, et ce besoin qu'avait ressenti Eddie de voir le papier que Balassar avait posé en face de Calvin Tower avait quelque chose de rude et d'impérieux.
« Dis-moi ce qu'il disait. »
Eddie se mordit la lèvre. Il ne ressentait pas une peur comparable à celle de sculpter la clé qui leur avait finalement permis de sauver Jake et de le ramener de ce côté-ci, mais il n'en était pas loin. Parce que, comme dans le cas de la clé, il s'agissait de quelque chose d'important. S'il oubliait quoi que ce soit, des mondes entreraient en collision.
« Bon, ben, je me rappelle pas tout, pas mot pour mot. »
Roland eut un geste d'impatience. « Si c'est ça que je cherche, je t'hypnotise et je peux te dire que tu me diras tout, mot pour mot. »«
Tu penses que c'est important ?» demanda Susanna.
« Je pense que tout est important, » répondit Roland.
« Et si l'hypnose ne marche pas sur moi ?» demanda Eddie. « Et si j'étais pas, disons, un bon sujet ?»«
C'est à moi d'en décider, » dit Roland.
« 19 !» dit Jake brusquement.
Ils se tournèrent tous vers lui. Ils fixaient des yeux les lettres qu'Eddie et lui avaient dessinées par terre à côté du feu éteint. Claudia I. Inès Bachmann. 19 lettres.
3.
Roland réfléchit un instant, puis il laissa couler. Si le chiffre 19 jouait réellement un rôle dans tout ça, sa signification finirait par se révéler avec le temps. Pour l'instant, il y avait d'autres priorités.
« Le papier, » dit-il. « Restons là-dessus pour le moment. Dis-moi tout ce que ça te rappelle. »«
Eh bien, c'était un accord légal avec le sceau en bas et tout. »
Eddie s'interrompit, soudain frappé par une question on ne peut plus simple.
Roland avait probablement pigé cette partie-là. Après tout, il avait plus ou moins contribué au respect de la loi en son temps. Mais ça ne coûtait rien de s'en assurer.
« Les magistrats, tu connais, non ?»
Roland lui répondit de son ton le plus sec.
Je te rappelle que je viens de Gilead, Eddie, la plus intérieure des baronnies intérieures. Là-bas, nous avions plus de marchands, de fermiers et de fabricants que d'hommes de loi. Mais à peu de choses près.
Susanna se mit à rire.
Tu me fais penser à une scène dans Shakespeare, Roland. Deux personnages, Falstaff et le prince Hal, il me semble, mais je suis pas sûr, sont en train de discuter de ce qu'ils feront quand ils auront gagné la guerre et pris le pouvoir. Et l'un d'eux dit « Pour commencer, nous tuerons tous les hommes de loi. »
Ce serait le rêve de commencer par là, dit Roland, et le ton pensif qu'il employa donna le frisson à Eddie. Puis le pistolero se tourna de nouveau vers lui.
« Continue. » Et... « Si quoi que ce soit te retient, Jake, n'hésite pas à intervenir. Et détendez-vous tous les deux au nom de vos pères. Tout ce que je veux pour l'instant, c'est une idée générale. »
Eddie s'en était douté, mais c'était réconfortant de l'entendre de la bouche de Roland.
« D'accord. Il s'agissait d'un protocole d'accord. C'était écrit en gros, en haut de la page. En bas, ça disait « Bon pour accord ». Et il y avait deux signatures. L'une était celle de Calvin Tower, l'autre celle d'un Richard quelque chose. Tu t'en souviens, Jake ?«
Sir », fit Jake. « Richard Patrick Sir ».
Il marqua une courte pause, mais ses lèvres continuaient à remuer en silence. Puis il hocha la tête. 19 lettres.
« Et il disait quoi, ce protocole ?» demanda Roland.
« Pas grand-chose, si tu veux tout savoir. Enfin, c'est ce qui m'a semblé, en tout cas. En gros, il disait que Tower était propriétaire d'un terrain vague au coin de la 46e rue et de la 2e avenue. Le fameux terrain vague, dit Jake, celui avec la rose.
Ouais, celui-là même.
Quoi qu'il en soit, Tower a signé l'accord le 15 juillet 1976. Sombra Corporation lui a versé 100 000 billets. Et lui, il leur a donné, si on peut dire, la promesse de ne pas vendre ce terrain à qui que ce soit, excepté la Sombra, pendant l'année qui suit, d'en prendre soin, payer les impôts, etc., et de laisser à la Sombra un droit de préemption s'il ne le leur avait pas vendu à cette date. Ce qu'il n'avait pas fait,
Visiblement, mais il restait encore un mois et demi avant le silence.
« Monsieur Tower a dit que les 100 000 avaient été dépensés, » ajouta Jake.
Y avait-il quoi que ce soit dans le protocole concernant un éventuel privilège de surenchère pour cette Sombra Corporation ? Demanda Susanna.
Eddie et Jake réfléchirent, échangèrent un regard, puis secouèrent la tête.
« Vous êtes sûr ?»«
Pas sûr et certain, mais il me semble bien, » dit Eddie.
« Tu penses que c'est important ?»
« J'en sais rien. Le genre de protocole dont vous parlez, eh bien, sans privilège de surenchère, je ne vois pas à quoi ça rime.
Si on y réfléchit une seconde, à quoi ça sert? Je sous-signais qu'Alvin Tower suis d'accord pour envisager de vendre mon terrain. Vous me versez 100 000 $ et moi je réfléchis pendant une année entière. Enfin, quand je serai pas en train de boire mon café ou de jouer aux échecs avec mes amis, bien entendu. Et quand l'année sera passée, peut-être bien que je vous le vendrai ou bien je le garderai pour moi ou alors je le vendrai aux enchères ou plus offrants. » Et si ça ne vous plaît pas, mes chéris, vous pouvez toujours pisser dans un violon si ça vous chante.
« Tu oublies quelque chose, » dit doucement Roland.
« Quoi ? » ?»«
Que cette Sombra Corporation n'est pas une société ordinaire, respectueuse des lois. Demandez-vous pourquoi une société légale louerait les services d'un type comme Balassar pour transmettre ses messages.
« Un point pour toi, » reconnut Eddie. Tower était mucho paniqué.
Quoi qu'il en soit, intervint Jake, ça éclaire au moins certains points. L'enseigne que j'ai vue dans le terrain vague, par exemple. Cette Sombra Corporation gagnait aussi le droit de faire la publicité de projets en préparation, dans les locaux.
Tu as vu cette partie-là, Eddie ?
Je crois, oui, juste après le passage qui dit que Tower ne doit pas hypothéquer sa propriété à cause de l'intérêt de Sombra Corporation, c'est ça ?
C'est ça, confirma Jake.
Le panneau que j'ai vu dans le terrain disait... Il fit une pause, perdu dans ses réflexions, puis il leva les bras et fixa le regard entre ses deux mains comme s'il lisait une pancarte visible de lui seul. Les entreprises Mills et Sombra Promotion poursuivent la rénovation de Manhattan. Bientôt sur cet emplacement, le complexe résidentiel de la baie de la Tortue.
« Alors c'est pour ça qu'ils veulent le terrain ?» fit Eddie.
« Pour construire des apparts, mais... »« Qu'est-ce que c'est un complexe résidentiel ?» demanda Susanna en fronçant les sourcils.
« Ça ressemble à un nom de cocktail vitaminé. »«
C'est comme un ensemble d'appartements en copropriété, » répondit Eddie. « Il y en avait sans doute dans ton camp, mais sous un autre nom. »«
Ouais, » dit Susanna un peu rudement. « On les appelait les co-op. » Ou parfois, en allant très loin dans le centre-ville, on les appelait résidences.
Peu importe, parce que de toute façon, c'est pas de ça qu'on parle, fit Jake. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'immeuble dont parlait la pancarte. Tout ça, c'est rien que du... Purée, comment on appelle ça déjà ?
Du camouflage, suggéra Roland.
Jake eut un grand sourire.
Du camouflage, c'est ça. Le sujet, c'est la rose. « Pas cet immeuble, et ils ne pourront pas l'obtenir tant qu'ils n'auront pas le sol sur lequel il pousse, j'en suis certain. »«
Tu as peut-être raison, l'immeuble n'a rien à voir là-dedans, mais ce nom, la baie de la Tortue, il fait écho, vous trouvez pas ?» Elle regarda le pistolero.
« Cette partie de Manhattan s'appelle la baie de la Tortue, Roland. »
Il hocha la tête sans paraître surpris. La Tortue était l'un des 12 gardiens, et elle se tenait sans aucun doute au bout de ce rayon sur lequel il cheminait.
« Ces types des chantiers Mills ne sont peut-être pas au courant pour la rose, » dit Jake, « mais je vous parie que ceux de la Sombra Corporation, si. »
Il enfouit la main dans la fourrure d'Otte, qui était à présent tellement épaisse sur la nuque que la main du garçon disparut complètement.
« Ce que je crois... » C'est que quelque part dans New York, dans un immeuble de bureau, probablement dans la baie de la Tortue, dans l'East Side, il y a une porte au nom de Sombra Corporation. Et quelque part derrière cette porte, il y a une autre porte. Le genre qui vous amène ici.
Ils restèrent assis, à réfléchir, pendant un long moment, à ces mondes tournant autour d'un axe unique, dans une harmonie mourante, et aucun d'eux ne prononça un mot.
4.
Voilà ce qui se passe à mon avis, fit Eddie. Suze, Jake, surtout, arrêtez-moi si je me trompe. Ce Cal Tower est une sorte de protecteur de la rose. Son conscient ne le sait peut-être pas, mais je crois que c'est son rôle. À lui et peut-être à tous ses ancêtres. Ça expliquerait le nom. Seulement, il est le dernier, fit Jake.
Rien ne te permet d'en être sûr, Trésor, objecta Susanna.
Pas d'alliance, dit Jake. Et Susanna acquiesça, lui accordant ce point-là, du moins pour l'instant.
Peut-être qu'à une époque, il y avait des tas de Torren possédant des tas de propriétés à New York, dit Eddie. Mais c'est du passé. Maintenant, la seule barrière entre la Sombra Corporation et la Rose, c'est ce petit gros presque fauché qui a changé de nom. Un simple... comment on appelle ces gens qui aiment les livres ?
Un bibliophile, souffla Susanna.
Voilà, c'est ça. Et George Biondi n'est peut-être pas Einstein, mais il a dit au moins un truc malin quand on les espionnait. Il a dit que cet endroit n'était pas une boutique, mais un trou à fric. Son petit cirque, c'est une vieille histoire. Là d'où on vient, Roland. Quand maman voyait un gars riche à la télé, du genre Donald Trump.
Qui ? Fit Susanna.
Tu ne connais pas, en 1964, c'était encore qu'un gamin. Et puis c'est sans importance. Elle disait, on fait et on défait une fortune en 3 générations. C'est ça, vivre à l'américaine, mes garçons. Alors, voilà notre tower, il est un peu comme Roland, le dernier de sa lignée. Il vend un petit bout de terrain par-ci par-là, il paie ses impôts, il paie ses traites, il assure les notes de carte de crédit et la facture du médecin, il renouvelle un peu son stock.
Évidemment, j'invente.
Mais je ne sais pas, ça ne colle pas.
Non, en gérit Jake à voix basse, fasciné.
Ça ne colle pas.
Peut-être que vous avez partagé le même kef, suggéra Roland. Ou plutôt tu as dû le toucher par le Shining, comme mon ami Alain savait le faire.
Continue, Eddie.
Et chaque année, il se dit que la librairie va remonter la pente. Se reprendre, comme ça arrive parfois à New York, sortir du rouge pour passer au noir, et qu'alors tout ira bien pour lui. Et un jour, il ne lui reste plus qu'une chose à vendre, le lot 298, numéro 19, dans la baie de la Tortue.
298 se simplifie en 19, fit remarquer Susanna. J'aimerais bien savoir si ça a un sens ou si c'est juste le syndrome de la voiture bleue.
C'est quoi le syndrome de la voiture bleue ? Demanda Jake.
Il suffit que tu achètes une voiture bleue et tu vois des voitures bleues partout.
Non, pas ici, fit Jake.
Pas ici, répéta Otte.
Et ils se tournèrent tous vers lui.
Il se passait parfois des jours, voire des semaines, sans qu'Otte prononce autre chose qu'un vague écho de bribes de mots. Et puis un jour, il articulait quelque chose qui pouvait être le bruit d'une réflexion originale. Mais impossible de savoir, impossible d'être certain. Même Jake ne pouvait en être certain.
Comme nous ne sommes pas certains à propos du nombre 19, pensa Susanna, et elle tapota gentiment la tête d'Otte, lequel répondit par un clin d'œil sympathique.
« Il s'accroche à ce terrain jusqu'à la dernière extrémité, » poursuivit Eddie.
« Je veux dire, il n'est même pas propriétaire des murs pourris de sa boutique, il les loue. »
Jake prit le relais.
« Même Tom et Jerry, charcuterie fine et artistique, sont en faillite et Tower le fait démolir. Parce que, au fond de lui, il a envie de vendre ce terrain. Au fond de lui, une petite voix lui dit qu'il faudrait être fou pour ne pas le vendre. »
Jake se tut un moment, réfléchissant à cette façon qu'avaient les idées de surgir en pleine nuit. Des idées folles, des pensées folles, et des voix qui refusaient de se taire.
Mais il y a cette autre partie de lui. Cette autre voix.
La voix de la tortue, compléta Susanna à voix basse.
Oui, la tortue du rayon, acquiesça Jake. Ça revient sans doute au même.
Et cette voix lui dit qu'il doit s'y accrocher à tout prix.
Son regard se tourna vers Eddie.
Tu crois qu'elle est au courant pour la rose? Tu crois qu'il y va parfois pour la regarder?
Est-ce que le lapin chie dans la forêt? Bien sûr qu'il est au courant. Il doit savoir d'une façon ou d'une autre, parce que un terrain comme celui-là, en plein cœur de Manhattan, tu dirais que ça vaut combien, Susanna?
À mon époque, pas loin $1 million.
Alors en 1977, Dieu seul le sait. 3, 5? Elle haussa les épaules.
Assez pour permettre à Cy Tower de vendre des livres à perte jusqu'à la fin de ses jours, à condition qu'il se montre raisonnable en investissant le capital.
Tout ça nous prouve combien il est réticent à cette vente, conclut Eddie.
Je veux dire que Suze nous a déjà démontré comme la petite Sombra est loin du compte avec ses 100 000 billets.
Pourtant, ils en ont eu pour leur argent, fit Roland. Ils ont eu quelque chose de très important.
Un pied dans la porte, fit Eddie.
Tu dis vrai? À présent que leur protocole arrive à échéance, il lui envoie votre version des grands chasseurs du cercueil, des gros calibres, s'il n'a pas du gain ou la pure nécessité n'ont pas poussé Tower à vendre la terre qui abrite la rose, ils l'obtiendront par la terreur.
Ouais, fit Jake.
Et qui tiendrait bon aux côtés de Tower?
Aaron Lipno, peut-être? Ou personne?
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
« On va l'acheter nous-mêmes, » répondit promptement Suzanne.
« Cela va de soi. »
5.
Il y eut un instant de silence et de stupéfaction, puis Eddie hocha la tête d'un air pensif.
« Bien sûr, pourquoi pas ? Selon les termes de leur accord, la Sombra Corporation ne possède pas de privilège de surenchère. Ils ont dû essayer, mais Tower ne s'est pas laissé faire.
Alors voilà. » On va l'acheter.
Combien de pots de serre vous pensez qu'il en demandera?
40? 50?
S'il est vraiment dur en affaires, on peut peut-être ajouter quelques reliques des anciens, tu sais, des tasses, des assiettes, des fers de flèche. Ça lui ferait des sujets de conversation pendant les cocktails.
Susanna lui lança un regard de reproche.
Ok, c'est peut-être pas hilarant, admit Eddie, mais il faut regarder la réalité en face, trésor. On n'est rien d'autre qu'un petit groupe de pèlerins crasseux en train de camper à cheval sur deux mondes. Je veux dire, on n'est même plus dans l'entre-deux mondes, là.
Et puis, ajouta Jake en ayant l'air de s'excuser, même là-bas, on n'était pas réel, du moins pas aussi réel que quand on passe une des portes. Ils sentaient notre présence. Mais, en gros, on était invisible.
Une seule chose à la fois, intervint Suzanne. Pour ce qui est de l'argent, « j'en ai des tonnes, si on peut y avoir accès, bien sûr. »«
Combien ?» demanda Jake.
« Je sais que ça peut paraître impoli, ma mère s'évanouirait si elle m'entendait demander ça à quelqu'un, mais on est allé un peu loin pour se préoccuper de politesse, » répondit Susanna.
« Pour tout dire, trésor, je ne sais pas exactement. Mon père a inventé des méthodes de chirurgie dentaire, ça a un rapport avec les couronnes. » Et il en a tiré le maximum. Il a monté une compagnie appelée Industries Dentures Homes, et il a géré toutes les finances tout seul jusqu'en 1959.
L'année où Morte a poussé sous ce métro.
Elle acquiesça.
C'est arrivé en août.
Environ 6 semaines plus tard, mon père a eu une attaque cardiaque, la première d'une longue série. Elle a sans doute été causée en partie par ce qui m'était arrivé, mais... je n'en prends pas toute la responsabilité. C'était un viveur, c'est tout.
Tu n'as pas à ressentir la moindre responsabilité, dit Eddie.
Je veux dire, c'est pas comme si t'avais sauté sous ce foutu métro, Suze.
Je le sais. Mais ce que tu ressens, et surtout la durée de ce que tu ressens, n'a pas toujours grand-chose à voir avec la vérité objective. Ma maman nous ayant quittés, c'était mon rôle de prendre soin de lui et... je suis pas arrivé, j'ai jamais réussi à me sortir complètement de la tête que c'était ma faute.
C'est du passé, dit Roland sans grande compassion.
Merci, trésor, dit Susanna sèchement. Tu sais tellement bien mettre les choses en perspective.
Quoi qu'il en soit, après sa première attaque, mon père a confié les affaires financières de l'entreprise à son comptable, un vieil ami nommé Moses Carver. Après la mort de mon père, Pop Mose a tout pris en charge pour moi.
Quand Roland m'a arraché à New York pour m'emmener dans ce charmant trou à rats, je devais valoir dans les 8 à 10 millions de dollars. Est-ce que ça suffirait pour acheter le terrain de M. Tower, à supposer qu'il accepte de nous le vendre ?
Il accepterait sans doute de le vendre pour des pots de serre, si Eddie dit vrai, à propos du rayon, dit Roland. Je crois qu'une grande partie de l'esprit de M. Tower, ce quart qui l'a fait résister et s'accrocher au terrain vague si longtemps, nous attend.
Il attend la cavalerie, fit Eddie avec une ombre de sourire sur les lèvres, comme Fort Ord dans les 10 dernières minutes d'un film de John Wayne.
Roland le regarda sans sourire.
Il attend le blanc.
Susanna porta ses mains brunes à son visage brun et les regarda.
Alors je suppose que c'est moi qui l'attends.
Oui, dit Roland. Effectivement.
Et l'espace d'une seconde, il se demanda de quelle couleur était la peau de l'autre.
De Mia.
Il nous faut une porte, dit Jake.
Il nous en faut au moins deux. Corrigea Eddie.
Une pour régler l'affaire Tower, mais avant ça, il faut qu'on retourne dans le camp de Susanna, et je veux dire aussi près que possible de la date à laquelle Roland est venu la chercher. Ce sera un mauvais trip de retourner en 1977, d'entrer en contact avec ce type, Carver, pour se rendre compte qu'il a légalement fait enregistrer le décès d'Odetta Holmes en 1971, et que tous les biens ont été distribués entre des parents aux quatre coins de l'Amérique.
Ou de retourner en 1968 pour se rendre compte que M. Carver a disparu, suggéra Jake. Qu'il a tout fait passer dans ses propres comptes et qu'il s'est pris une bonne petite retraite sur la Costa del Sol.
Susanna le fixait d'un air choqué avec une expression du genre « Juste ciel » peinte sur le visage, expression qui aurait été drôle en d'autres circonstances.
Pop Mose n'aurait jamais fait une chose pareille. C'est mon parrain, bon sang!
Jake eut l'air embarrassé.
Désolé, j'ai lu plein de romans policiers, Agatha Christie, Rex Stout, Eddie McBain, ce genre de trucs arrivent sans arrêt.
De plus, ajouta Eddie, des sommes pareilles, ça fait faire des choses bizarres aux gens.
Elle lui lança un regard froid et suspicieux, un regard étrange qui lui était presque étranger.
Roland, qui possédait une information qui échappait à Jake et Eddie, l'interpréta comme un regard tueur de grenouilles.
« Comment tu le sais, toi ?»
Puis presque immédiatement.
« Ah, oh, pardon, trésor, c'était déplacé. »«
Ça va, » fit Eddie. Il sourit, mais d'un sourire raide, peu sûr de lui.
« Tu t'es emporté. »
Il tendit la main, prit celle de Susanna et la serra. Elle serra à son tour. Le sourire d'Eddie s'élargit un peu comme s'il retrouvait sa place parmi eux.
« C'est juste que je connais Mouse Scarver, il est foncièrement honnête. »
Eddie leva la main, non pas pour montrer sa confiance, mais pour éviter que la discussion ne s'attarde dans cette voie.
« Voyons si je comprends bien vos plans. » récapitula Roland. « Pour commencer, tout dépend de notre capacité à retourner dans votre monde à New York, non pas en un camp donné, mais en deux. »
Il y eut un moment de silence durant lequel ils analysèrent en détail ce que venait de dire Roland, puis Eddie acquiesça.
« C'est ça. En 1964, pour commencer, Susanna aura disparu depuis quelques mois, mais personne n'aura perdu espoir et tout. Elle entre en scène. Tout le monde applaudit. Le retour de la fille prodigue. On prend le pognon, ce qui peut prendre un petit moment.
Le plus dur, ce serait sans doute de convaincre Pape Mouse de s'en séparer, dit Susanna. Dès qu'il s'agit de compte en banque, ce type a la dent dure, et je suis sûr qu'au fond de lui, il me voit toujours comme une gamine de 8 ans.
Mais légalement, il est à toi, cet argent, demanda Eddie.
Roland remarqua qu'il prenait beaucoup de précautions. Il ne s'était pas totalement remis de la petite vacherie et du regard qui allait avec.
« Je veux dire, il peut pas t'empêcher de le prendre, pas vrai ?»«
Non, chérie, mon père et Pop Mose ont institué un fidéicommis à mon intention, mais il a pris fin en 1959, quand j'ai eu 25 ans. » Elle tourna le regard vers lui, un regard sombre,
d'une beauté et d'une expressivité remarquables.
Là, j'ai plus la peine de masticoter pour connaître mon âge maintenant. Si tu sais faire une soustraction, tu peux deviner par toi-même.
Ça n'a pas d'importance, fit Eddie.
Le temps n'est qu'un visage qui se reflète sur l'eau.
Roland sentit la chair de poule sur son bras. Quelque part, peut-être dans un champ de roses d'un rouge sang éblouissant, loin, très loin, un rouillot venait de marcher sur sa tombe.